et une nouvelle édition de l'économie en question en compagnie de quatre experts, chercheurs, professeurs d'économie, pour leur demander de commenter l'actualité de cette semaine en confrontant leurs analyses pour les opposer, pour les rapprocher. Et deux sujets ce samedi très éloignés l'un de l'autre, comme on va le voir. L'Afrique de l'Ouest d'abord, à l'heure où la pandémie liée au virus Ebola prend une nouvelle ampleur, menaçant de devenir endémique dans toute la région, tandis que le virus par ailleurs démontre sa capacité à s'exporter en dehors du continent, avec deux cas, on le sait, aux États-Unis et en Espagne, faisant redouter une expansion mondiale. Trois pays pour l'heure sont très sévèrement touchés, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, le Nigeria un petit peu moindre degré, trois économies fragiles, mais insérées dans une région où la croissance est forte et remarquable même depuis plusieurs années. De quelle croissance s'agit-il en réalité? Où se situent ces progrès? Quels effets sur les conditions de vie des populations? Et le virus Ebola, s'il s'étend comme on le redoute, stoppera-t-il les avancées déjà observées? La Banque mondiale le craint fortement et l'a fait savoir cette semaine. Ce sera donc notre premier sujet examen de la situation dans un instant. L'impact de l'épidémie sur les économies d'Afrique de l'Ouest. Et notre deuxième sujet, où en est la gouvernance des entreprises? Salaires, dividendes, fusions, acquisitions, les pratiques ont-elles changé? Et plus précisément, a-t-on pris la mesure de la crise de 2008? L'envie de prendre des nouvelles, effectivement, de ces entreprises à partir d'une information parue en début de semaine, qui a peu fait parler, je trouve, mais tout de même, les entreprises américaines devraient distribuer cette année environ 914 milliards de dollars en rachat d'actions et dividendes, soit 95% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un fait, il devient toujours plus important. C'est beaucoup d'argent, c'est très généreux pour les actionnaires, mais n'est-ce pas un petit peu surprenant à quelque temps d'un pic de crise aussi sévère, dont nous ne sommes d'ailleurs pas sortis, en Europe du moins, et alors surtout que de nombreux appels à la régulation avaient été lancés? Peut-être pas, c'est ce que nous verrons avec nos invités que je vous présente tout de suite. Un grand salut d'abord à Jézabel Coupé-Soubéran qui nous rejoint pour la première fois à l'économie en question. On s'en réjouit, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et spécialiste d'économie financière et bancaire. Et puis nos familiers, Olivier Pastret, professeur d'économie à Paris 8, Nicolas Bavret, historien, économiste, et Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'université Paris 13. Bienvenue à tous les quatre. C'est l'économie en question et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et je n'ai pas oublié nos actualités invisibles pour lesquelles nous réserverons une petite séquence en toute fin d'émission, celle que nos invités ont repérée pour nous, qu'ils souhaitent signaler à notre attention parce qu'elles leur paraissent porteuses d'avenir ou intéressantes ou peut-être négligées. On part donc de cette situation qui devient très, très dramatique, on le sait, dans une région qui était présentée comme la plus prometteuse du continent noir. On sera peut-être surpris de l'apprendre, mais c'est un fait. Avant que le virus Ebola fasse son apparition dans la région, l'Afrique de l'Ouest battait des records de prévisions de croissance très importants pour 2014 et 2015. Alors, bien sûr, il nous faut peut-être dire ce que signifient ces prévisions de croissance et en quels termes elles peuvent se traduire concrètement. Mais tout de même, c'est une prospérité qui aujourd'hui commence à être remise en cause, notamment dans les trois pays les plus touchés. Je rappelle les chiffres, l'Organisation mondiale de la santé qui a fait état de pas loin de 4000 morts. Je n'ai pas le chiffre précis ce matin, mais on était autour de 3000. Déjà, je croyais encore un tout petit peu en dessous. Enfin, en tout cas, c'est évidemment énorme. Un chiffre très important sur plus de 7000 personnes touchées. Et un bilan qui, d'ailleurs, est sans doute sous-estimé, puisque de nombreuses victimes, comme on le sait, ne sont pas déclarées. Donc, des ravages humains, bien entendu, et c'est à cela que l'on pense d'abord. Et puis, la perte de croissance potentielle. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Et la Banque mondiale l'a franchi en faisant paraître ses prévisions assez pessimistes. On va y revenir, je ne reviens pas sur les chiffres même, on peut les donner en cours de discussion. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut mesurer ou pas cet impact d'une épidémie aussi, aussi redoutable sur l'avenir d'économie et peut-être de la région. Commençons par les trois pays concernés. Qui veut prendre la parole? Nicolas Bavrès, qui a publié récemment des lettres du Bénin, pas très loin, le Bénin, hein, c'est pas sur si le éloigné golfe de Guinée, que cela. Oui.
je crois que le problème, vous l'avez très bien posé, c'est-à-dire que depuis 2000, le continent noir, qui était enfermé depuis les indépendances dans une spirale de pauvreté et de mal-développement, a décollé avec une croissance de 5,5%. Alors c'est très divers, il y a 54 États, l'Afrique est très diverse, mais on avait ce décollage et c'était un point très positif. Et là, on a deux phénomènes qui semblent remettre en route ce qu'on a pu appeler la malédiction africaine. D'un côté, le terrorisme, Boko Haram, Acmi, les suites du GIA algérien, les Chebabs en Somalie. Et puis de l'autre, cette nouvelle épidémie qui vient après celle du sida. Donc, c'est vrai que dans cette région, les trois pays les plus touchés, ce qui se passe est très inquiétant. On sait que les 4000 morts qui sont aujourd'hui annoncés sont de toute manière inférieurs à la réalité. Et on pense qu'il y aura 1,4 million de personnes touchées dès janvier 2015. Donc c'est un choc sanitaire majeur qui est durable et qui continue à progresser. Les causes, elles sont connues. Pauvreté, les suites de guerres civiles, des États faibles effondrés. Et c'est ça qui donne le...
Les causes de l'ampleur de la catastrophe, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Certainement n'aurait pas pris ses proportions dans un pays développé.
Parce qu'on... Voilà. Mais si vous voulez, on va y revenir, mais sur le Nigeria, le fait d'avoir des infrastructures sanitaires quand même beaucoup plus développées, un niveau d'éducation supérieur, fait que même si le Nigeria est touché, pour l'instant, c'est un peu contenu. Alors, les conséquences économiques, elles sont très importantes. La croissance était attendue à 7,7%. Et pour l'instant, on pense que le PIB va diminuer de 2,1% en Guinée, de 3,3% en Sierra Leone et de 3,4% au Libéria. Derrière, on a des secteurs qui sont très touchés, les mines, l'aérien, l'hôtellerie. Et puis on a surtout cette espèce d'image de l'Afrique qui de nouveau se trouve dégradée, avec un impact sur les investisseurs.
Oui, et les grandes entreprises aussi qui sont bien obligées de réagir vis-à-vis de leur personnel, qui est d'ailleurs souvent un personnel local. Et on va le voir si elles s'en vont ou pas et dans quelles conditions. Olivier Pastret, Benjamin.
Beaucoup d'économistes n'arrivent pas à raisonner de manière pacifiée sur l'Afrique. On est passé d'un afro-pessimisme absolu jusqu'à il y a une dizaine d'années à un afro-optimisme qui me paraît aussi infondé. Alors certes, les chiffres sont là. En gros, le taux de croissance annuel moyen, c'est à peu près 5%. Le décollage de l'Afrique, on n'est quand même pas rendu. Si on regarde les infrastructures, Nicolas citait les infrastructures hospitalières au Nigeria. Oui, mais enfin, dans tous les autres pays, les infrastructures hospitalières sont parfaitement déficientes en matière d'eau, en matière de route, à part les télécoms.
Clairement, il n'y en a pas au Libéria.
La corruption reste omniprésente dans un certain nombre de pays. Les capitaux s'enfuient, les cerveaux s'enfuient.
Les capitaux, il y a de l'investissement quand même.
Il y a de l'investissement, mais dès qu'il n'y a plus de contrôle de change, il y a beaucoup de capitaux qui partent et le solde.
Pour l'instant, les capitaux internationaux, ils arrivent et ils continuent à arriver.
Ils continuent d'arriver, y compris dans cette région.
Mais sur le continent, oui.
Donc, l'afro-optimisme qui était d'ambiance jusqu'à maintenant me paraît un peu injustifié. Après, quel est l'impact de la maladie sur la croissance? Aujourd'hui, elle me paraît extraordinairement faible. Les chiffres que cite Nicolas sont incontestables, mais on parle de trois tout petits pays à l'échelle du continent. C'est pas grand-chose. 4000 morts, c'est 4000 de trop. Mais il faut quand même rappeler que le sida, c'est 35 millions de morts. En termes d'échelle de pandémie, on est encore, espérons qu'on trouve des médicaments, ce qui n'est pas complètement avéré, on est encore dans un impact qui est très limité.
Benjamin Coria, puis Isabelle Copé-Souverain.
Oui, moi je voulais revenir sur l'épidémie elle-même et la resituer dans le contexte économique. Ce qui a été dit, bien sûr, est tout à fait exact, que c'est une zone qui est en croissance et en développement. Mais il faut peut-être noter deux ou trois choses. La première, c'est que cette épidémie, elle intervient dans des pays qui se trouvent, du point de vue de leur classement, dans l'indice de développement mondial, entre le 179e et la 183e place. C'est-à-dire donc dans des pays dans lesquels,
en sur dépit... 190 pays, il y a actuellement.
Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment tout à fait en queue de peloton. Hein. Et ce n'est pas du tout par hasard que ça intervient là. Parce que, évidemment, les phénomènes de pauvreté, de malnutrition, etc., affaiblissent les corps, les institutions. Etc. Ça, c'est un premier
point. Plus les ravages des guerres civiles qui ont été...
Plus les ravages des guerres civiles, bien sûr. Mais... Les ravages des guerres civiles, ils ont bon dos. Je vais expliquer une chose. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'ANRS, hein, l'Agence nationale de recherche sur le sida, où j'ai aidé à conduire ou à faire conduire des études sur le développement de l'épidémie du sida. Et qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là ? C'est que l'une des raisons pour lesquelles l'épidémie du sida s'est développée à la vitesse à laquelle elle s'est développée, c'est que pendant des années, à partir notamment des années 70 et 80, sous l'instigation de la Banque mondiale, sous l'instigation des plans d'ajustement structurel, on a détruit ce qui pouvait exister d'appareils de santé publique. Alors ensuite, on a aujourd'hui la Banque mondiale qui dit « Ah oui, il faut donner 350 millions d'euros, etc. » Très bien, très bien. Mais je veux dire, on n'aurait pas inversé la doctrine de la Banque mondiale qui, pendant longtemps, a contribué à établir des États forts avec un vrai système d'éducation, des vrais systèmes de santé, pour dire tout d'un coup « c'est le marché qui l'emporte ». Cette épidémie n'aurait pas l'impact qu'elle a ou qu'elle risque d'avoir. Donc je crois qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça veut dire
et les resituer en remontant dans les fameux programmes d'ajustement structurel.
C'est pas une fatalité les épidémies. Oui. D'ailleurs, vous aimez qu'on cite la théorie économique. Amartya Sen explique que les épidémies, bien sûr, ont des facteurs, mais que ça a aussi à voir avec des questions de démocratie. Là où la démocratie fonctionne, en général, les épidémies sont arrêtées assez vite.
Je vois Olivier Pastret hocher la tête en
C'est des travaux décisifs.
Comme cause de l'épidémie du sida, ça me paraît un raccourci un petit peu rapide. Je veux dire.
Cause de l'épidémie du sida, la vitesse de propagation de l'épidémie du sida a à voir avec le fait que les systèmes de santé avaient été détruits auparavant sous l'instigation de la Banque mondiale. Ça, on peut en discuter autant que tu veux.
Oui, c'est pas totalement...
Qui d'ailleurs a fait amende honorable depuis.
Qui depuis a fait amende honorable.
On peut l'ajouter également.
Bien sûr.
Olivier
non, c'est pas totalement aveuglant. Enfin, j'ai pas de position définitive arrêtée. Je suis pas en contradiction absolue avec ce que vient de dire Benjamin. Je dis simplement que quand on regarde la démocratie entre guillemets dans un certain nombre de pays africains, c'est pas facteur forcément de développement sanitaire
c'est
et social.
Point,
non, mais
c'est juste
sur ce point-là qu'il fallait, à mon avis, porter une nuance.
Isabelle Coupé Souverain, qui
c'est difficile,
écoute
hein,
patiemment.
C'est
vous allez voir. Je vais vous laisser la parole.
Je voudrais revenir juste sur quelques points qui me semblent vraiment des points fondamentaux. Des régions, effectivement, avec une forte dynamique de croissance, mais une croissance, et ça a été dit, mais je crois qu'il faut insister, une croissance qui n'a pas permis de rattraper des décennies de retard hein, en matière de système de santé, en matière, en matière sanitaire,
dont
en matière d'éducation.
La population n'a pas encore profité, pour le dire clairement. Enfin,
exactement, mais et ça, c'est voilà. Fondamental, parce que ça explique l'ampleur du risque de contagion actuellement. Si ces systèmes étaient plus solides, le risque de contagion serait évidemment plus limité. C'est une croissance qui va nécessairement pâtir des conséquences d'Ebola. Alors on a cité les études qui essaient d'évaluer l'impact. Je pense que on est loin d'arriver à estimer évidemment précisément l'impact. Et je crois que même le scénario le plus pessimiste de la Banque mondiale, parce qu'elle en définit deux, un scénario Ebola faible, un scénario Ebola fort, même le scénario Ebola fort, finalement, est relativement optimiste parce qu'il envisage une contagion simplement dans la zone Afrique de l'Ouest. Je trouve également... Alors, et pourtant, si vous voulez, alors, même dans ce scénario pessimiste, mais... que je trouve encore sans doute trop optimiste, eh bien, les conséquences sont évaluées à près de 25 milliards de dollars. Et je crois vraiment qu'on sous-estime beaucoup les choses. Je trouve également le FMI très optimiste hein, sur la question quand il considère que, au fond, eh bien, les autres pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, qui connaissent aussi une forte dynamique de croissance, ne vont pas être trop affectés par les conséquences d'Ebola. Et puis, j'aimerais bien aussi... soulever un point, en fait, sur la réaction ou la réaction insuffisante de la communauté internationale, qui risque de payer quand même le prix fort de son manque de solidarité envers l'Afrique. Je pense que d'une certaine manière, elle le paie déjà, parce que, on l'a dit, le risque de contagion est accru par la faiblesse des systèmes sanitaires. Et ça, c'est pas sans lien avec la faiblesse des politiques d'aide au développement. C'est pas sans lien non plus avec les politiques d'ajustement structurel que Benjamin a relevé tout à l'heure. Et il me semble aussi que cette communauté internationale appréhende un peu le risque de contagion d'Ebola et la crise systémique qui pourrait en résulter, comme on a appréhendé, au fond, le risque de crise financière avant la crise. Pourquoi ? Parce que la communauté internationale, un, ne se coordonne pas. D'accord ? Deux, elle s'estime un peu capable, et c'est très présomptueux, de nettoyer les dégâts après coup. On faisait exactement les mêmes choses. Enfin, on avait exactement le même sentiment. Les banques centrales avaient le même sentiment en matière financière. Et trois, on n'investit pas suffisamment dans la prévention, dans le préventif.
J'allais dire quatre, on ne réagit pas assez vite.
Exactement.
D'ailleurs, vous l'avez dit aussi.
Et ça a mené au désastre.
Vous l'avez dit aussi.
C'est sur ce
Benjamin
point,
Coriat, sur cette analyse de Jezabel Coupé.
L'avenir de cette épidémie, j'espère qu'on va arriver à la juguler, mais cet avenir est quand même très indécis. Et pour la raison suivante, qui est que le premier repérage du virus, c'est 1976, donc ça fait 40 ans. Bien. Et pourtant, il n'existe aucun test adapté, il n'existe pas de traitement,
et la recherche.
Il n'existe pas de vaccin. Ça veut dire que pendant 40 ans, comme une épidémie africaine et qui ne voyageait pas encore à l'époque, l'industrie pharmaceutique a fait vraiment le service minimum et en dessous du service minimum. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a un sérieux problème, c'est que les gens, c'est un peu comme le sida dans les pays dans lesquels il n'y a pas de traitement. Les gens ne se dépistent pas parce que comme ils savent qu'il ne va pas y avoir de traitement, il n'y a aucun bénéfice. Et donc là, on a cette difficulté-là qui est que les gens qui sont en situation indécise par rapport à leur propre contamination n'ont pas d'incitation à se faire contrôler parce que ils savent pas du tout comment ils vont être traités, s'ils vont l'être, etc. Voilà, donc si vous voulez qu'on regarde du côté du sud ou qu'on regarde du côté du nord, la communauté internationale, franchement, elle a beaucoup de choses à se reprocher sur cette affaire.
Et donc on a du souci à se faire quand même. Je rappelle par rapport à ce que nous a dit Jezabel Coupé-Soubéran que les frontières, petit rappel géographique, c'est en cas d'extension, ce qui est quand même à redouter parce que on dit que ce sont de très petits pays, des économies très faibles, mais enfin, leurs voisins sont le Mali, le Sénégal, au nord de la Guinée, la Côte d'Ivoire, à l'est. Et déjà, je voulais le mentionner, mais vous avez sans doute vu cette information, déjà les cours, par exemple, du cacao grimpent à leur plus haut niveau, retombent, remontent, et il y a une instabilité terrible. Et on pense que des investisseurs commencent à spéculer sur l'arrivée possible de la maladie en Côte d'Ivoire.
Et, puis,
et ça serait une autre histoire quand même.
Il y a surtout un pays clé qui est le Nigeria. Pourquoi ? Parce que entre Nicolas le scénario Babray, optimiste, voilà, et le scénario pessimiste, le Nigeria, c'est entre 160 et 170 millions d'habitants. Voilà. C'est maintenant la première puissance économique de l'Afrique dans les dernières évaluations qui ont été faites. Et donc, beaucoup va dépendre de la capacité ou non du Nigeria à bien traiter le choc, puisque on sait qu'il n'y a pas de frontières étanches dans cette région du monde, encore moins que dans toutes les autres. Et donc, la question va être cruciale. Sur l'impact économique, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que qui est quand même un facteur d'optimisme, c'est que quand on regarde cette croissance africaine, elle montre une résilience assez exceptionnelle parce que ce qu'on a rappelé il y a eu des progrès spectaculaires sur la démocratie. Il y avait 4 démocraties en 1990, il y en a 20 aujourd'hui sur 54, mais il y a quand même 19 pays qui sont considérés comme étant des États plus ou moins fragiles. Il y a eu 20 guerres sur ce continent depuis 2000, des conflits importants. Et néanmoins, la croissance, il y a eu les chocs financiers sur lesquels on va revenir, et la croissance s'est quand même installée. Pourquoi ? Parce que c'est une croissance qui est portée par la demande intérieure, qui est extrêmement décentralisée, diversifiée, et il y a une vitalité des sociétés africaines pour l'instant qui a fait que ça a résisté, on l'a rappelé, à l'épidémie de sida et à tous ces autres problèmes géopolitiques
avec
ou économiques.
Avec un tissu associatif extraordinaire, hein, qu'il faut toujours rappeler quand même.
Maintenant, sur les leçons, ce qui a été
heureusement,
dit,
heureusement qu'il y a ça. Oui,
c'est
alors,
tout à fait vrai.
Olivier Pastret joue du violon en souriant.
Il y a une première leçon sur l'Afrique, c'est vrai, sur les infrastructures, ça c'est vital, et ce qui a été rappelé sur santé et éducation. Et sur la communauté internationale, c'est vrai que le trop peu trop tard a joué dans ce domaine-là, parce que pour lutter contre Ebola, il faut trois choses, un diagnostic précoce, des mesures d'isolement, et puis la prévention. Et ça, c'est très compliqué.
C'est les trois choses qu'on n'a pas.
C'est ce dont on manque. Olivier, cette capacité de résilience, non, je vous voyais ironiser un petit peu.
Oui, parce que, encore une fois, l'afro-optimisme m'agace autant que m'agaçait l'afro-pessimisme. Il y a une étude d'un centre de recherche économique ghanéen qui a essayé d'analyser la croissance avec une méthodologie adaptée aux pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire pas simplement la croissance du PIB. Et l'analyse porte
avec
sur la profondeur...
Avec quels indicateurs, par exemple ? Parce que le PIB, on sait bien, c'est...
Entre autres, c'est celui qui est le plus important à mes yeux, la diversification du tissu économique, c'est-à-dire une vraie industrie, des vrais services. Or, quand on regarde pays par pays, la plupart des pays, pas tous, mais la plupart des pays, ont une concentration sur un ou deux secteurs, généralement proches des matières premières, qui rendent ces économies extraordinairement fragiles. Et donc, je crois que les outils d'analyse économique qui sont utilisables dans les pays du Nord, pour simplifier, ne sont pas forcément adaptés aux pays du Sud. Et beaucoup de ces pays sont des pays qui sont, dont l'économie est totalement déséquilibrée. Voilà. Donc, relativisons un peu, télécom et banque, ça ne fait pas une économie. Et matières premières et diamants, ça ne fait pas une économie. Oui. Sur le virus Ebola, soyons prudents. Autant le diagnostic sur ce qui manque est aveuglant et on est tous d'accord. La gravité de la pandémie, soyons modestes, soyons prudents, on ne sait pas ce qu'il en est. Et on peut peut-être espérer qu'on a tiré les enseignements du sida et que les laboratoires pharmaceutiques, qui ne sont pas complètement débiles, il y a de l'argent à gagner, donc ils vont peut-être un peu accélérer la formule. Tout ce que je dis est cynique et ignoble, mais c'est la réalité et au jour d'aujourd'hui, ça reste encore relativement circonscrit.
Non, mais deux choses très brièvement.
Benjamin Coriati,
il est probable que maintenant qu'il est avéré qu'il y a un marché, les pharmas vont s'y mettre. Mais ça prend beaucoup de temps, la mise au point d'un médicament. Donc, ce n'est pas pour cette épidémie-là. Hein. D'ailleurs, je signale que, comme ça a été le cas pour le sida, il y a un certain nombre d'associations, de patients, de médecins, y compris d'ailleurs Médecins Sans Frontières, qui demandent que les quelques médicaments disponibles qui ne sont pas encore éprouvés, parce que les essais cliniques n'ont pas été conduits jusqu'au bout, soient quand même utilisés en Afrique.
Alors, ce qui commence à être
c'est le cas.
C'est le cas.
Mais à des doses infinitésimales par rapport aux besoins. Bon, donc c'est pour dire que ça ne va pas se résoudre tout de suite. Sur la question plus de fond du développement africain, moi je suis un peu entre vous deux, si je peux dire. C'est-à-dire, je crois qu'il y a,
entre Olivier Pastret et Nicolas Bouvet.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui a démarré en Afrique. Je crois que c'est absolument incontestable. En plus, quand on se promène dans ces pays, on le voit. En même temps, on ne peut pas dire que ça y est, on est en phase de décollage. Je voulais juste dire la chose suivante, qui est que moi je suis extrêmement frappé par l'importance des initiatives locales décentralisées. C'est beaucoup plus là-dessus que je compte et qu'il y a de l'avenir. Et c'est vrai que si on s'appuyait davantage sur ces initiatives locales à travers des ONG dignes de ce nom, parce qu'il y en a de toutes sortes, il faut bien dire les choses, plutôt qu'à travers une aide centralisée qui part, on ne sait pas très bien où, dans les canaux de la bureaucratie, probablement on aurait de bien meilleurs résultats.
Jézabel Soubéran.
Oui, très rapidement. Moi, je crois aussi qu'il ne faut pas surestimer la résilience, de la capacité de résilience de l'Afrique. On y va un petit peu fort quand on parle de miracles africains. Je crois que les bases sont encore assez faibles. Et surtout, un point qu'on a un petit peu souligné en creux, il y a une très forte dépendance vis-à-vis encore des capitaux étrangers. Donc ça veut dire que si l'épidémie provoque une panique et des reflux de capitaux, ce sera tout à fait dramatique. Et ces pays doivent effectivement essayer de développer leur autonomie, hein, comme l'a dit Benjamin. Il faut absolument soutenir ces initiatives locales pour renforcer l'autonomie et la capacité de résistance. Non, mais
là-dessus, je ne partage pas ce point, parce que une des conséquences des politiques d'ajustement, c'est que l'Afrique, elle est très peu endettée. Le taux d'endettement de l'Afrique, c'est 20% du PIB. L'essentiel de l'épargne, c'est l'épargne qui vient de la diaspora. Olivier Pastré parlait tout à l'heure des banques, mais là encore, c'est faux. Pour l'instant, l'Afrique, elle est totalement sous-équipée en matière financière. Mmh. Vous avez la principale bourse africaine, c'est Londres, de très loin. Et donc...
c'est peut-être leur chance.
Non, mais exactement. Mais l'effet paradoxal, c'est que, en tout cas, ça a joué clairement un rôle dans le fait que les secousses financières ont très peu affecté l'Afrique, parce que de fait, elle est. Et par ailleurs.
Parce qu'ils ne sont pas inscrits,
elle
n'est pas financiarisée. Alors, il reste. Et ça encore, c'est la limite. C'est que quand on parle de l'Afrique, c'est toujours très compliqué, parce que. Les fameux 50 milliards de dollars qui arrivent et qui, à mon avis, vont continuer à augmenter, mais n'arrivent pas, évidemment, dans tout le continent. Et sur les 54 pays, on a des différences absolument considérables. Il va de soi que si on regarde la Centrafrique aujourd'hui, les problèmes économiques sont seconds par rapport à tous ceux qui se posent. Et qu'on n'a pas à attendre grand-chose du développement économique comme de tout le reste en Centrafrique.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que beaucoup de pays africains sont sous-bancarisés encore aujourd'hui. Mais quand on regarde justement comment se financent les entreprises africaines, eh bien on voit que la part, si vous voulez, des banques étrangères est importante.
Donc il y a quand même
une dépendance aux investisseurs étrangers, et c'est là qu'on peut relativiser la capacité
je crois que c'est Nicolas Bavray qui a dit tout à l'heure que les entreprises pour l'instant restaient sur place. Quand même, moi j'ai repéré deux ou trois exemples, hein. le géant américain, alors elles sont très présentes, hein, comme on le sait, les grandes entreprises, et comme vous l'avez dit, elles font des profits importants sur place, mais elles font travailler aussi beaucoup de monde. Donc ces entreprises, par exemple celles qui sont dans le secteur minier, pétrolier, je vois le géant américain ExxonMobil qui annonce le report d'un projet d'exploration de pétrole au Libéria. Je vois en août China Union, on sait que la Chine est très présente aujourd'hui en Chine, en Afrique, deuxième compagnie pour l'acier qui visait une énorme production de plus de 2,5 millions de tonnes en 14, a stoppé son activité à Monrovia. Ce sont quand même des signes inquiétants. Il y a du personnel local, Est-ce que ces investissements-là pourront revenir en fonction de ce qui va se passer?
Il y a deux choses importantes qui ont été dites. L'une par...
Les télécoms, je ne cite pas tout.
Oui, mais enfin, les télécoms, ça ne fait pas une économie. Attendez, moi, je fais ce matin, afro-pessimiste. Une chose importante qu'a dit Nicolas, c'est que l'Afrique, ça n'existe pas. Il y a des Afriques, il y a des pôles.
Ah, mais on parle de cette région-là.
Même dans cette région-là, on ne peut pas comparer la Sierra Leone. Et le Nigeria, ce que je dis est d'une banalité aveuglante. Et deuxièmement, une chose qu'a dit Benjamin qui me paraît très important, c'est qu'il est important de travailler sur des solutions décentralisées. Alors, c'est comme ça que l'Afrique se développera. Ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est sûrement la voie, mais comment le faire sans qu'il y ait, encore une fois, entre autres, de la corruption? Juste deux chiffres. Sur le site, on mettra le titre du livre de Georges Courat qui s'appelle « L'Afrique des idées reçues ». Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder les choses. Et deux chiffres que j'ai tirés qui sont quand même un peu frappants. Au Kenya, chaque citoyen doit verser 16 pots de vin par mois. On en est encore là, c'est quand même beaucoup. Et 61% des médecins nigérians quittent le territoire. Donc il y a vraiment encore des problèmes qui sont majeurs et qui ne sont pas adressés, comme on dit.
Deux données, effectivement, qu'il faut réfléchir. Benjamin Coriat, on va conclure bientôt.
Pour être un tout petit peu plus précis sur les solutions décentralisées et sur la question de la destination de l'épargne. Il faut savoir que dans très nombreux pays d'Afrique, l'épargne directe des immigrés est réinvestie à travers des associations localement dans des projets de développement, des puits, des champs irrigués, des écoles, etc. Bien. Le paradoxe auquel on a affaire, c'est que les institutions, à commencer d'ailleurs par notre ministère de la coopération, si on tient lieu, essaient par tous les moyens de capter cette épargne pour la bancariser. Alors que, probablement, la bonne solution serait de l'aider à se développer en créant autour d'elle dès l'équivalent de ce qui, dans d'autres domaines, est du venture capital, c'est-à-dire en apportant de l'expertise juridique, sociale, financière, agricole, etc. Et c'est vrai que on est ici un peu à la croisée des chemins. Est-ce que c'est ça qu'on favorise ou est-ce qu'on repompe cette épargne pour la bancariser dans des circuits officiels ? Je ne suis pas sûr que la deuxième solution soit la bonne.
Bien, merci. Merci à tous les quatre pour vos analyses.
On a eu Nicolas optimiste et Benjamin mesuré, ce qui est quand même une grâce à
Ebola. Oui, ça arrive pas tous les jours, ça.
C'est vrai que c'est pas l'ordinaire, vous avez raison. Olivier Pastret, qu'on vient d'entendre, Nicolas Bavray, Benjamin Coriat et Jésabelle Coupé-Souberan qui sont ce matin avec nous en direct, c'est l'économie en question. Il est exactement 11h30 et nous passons à un deuxième sujet difficile de faire plus opposé. On change de planète littéralement avec cette information qui m'a, je l'avoue, un petit peu frappée, qui en tout cas m'a donné envie de vous entendre sur tout cela. Les dividendes, les rachats d'actions représenteraient 95% des entreprises. Alors de Standard & Poor's, hein, les fameuses grandes agences de notation, le Standard & Poor's 500, ça veut dire quoi? Les 500 plus grandes entreprises de leurs yeux.
Voilà.
Voilà, et c'est une générosité, ce n'est pas de moi qui interpelle, disait l'article sur lequel je suis tombée. Alors je voulais vous entendre là-dessus, sans tomber peut-être dans la caricature, mais quand même nous montrer... Qu'est-ce qui se passe? Nous avions l'impression d'avoir entendu parler d'un besoin de réfléchir à tout ça, de réguler un petit peu mieux et de mieux répartir dividendes, de mieux répartir les bénéfices entre les dividendes qui vont directement aux actionnaires et ceux qui sont réinvestis dans les actions et de l'entreprise. On va donner la parole à Jésabelle Coupé-Souberan, d'accord?
Bien sûr.
Olivier Pastret, on commence avec elle.
Oui, alors juste pour commencer, peut-être un petit point de méthode, hein, parce que donc on a entendu effectivement que les dividendes des rachats d'actions avaient représenté 95% là, des bénéfices des entreprises du Standard & Poor's 500, et on a même entendu que ces versements avaient dépassé 100% des profits au premier semestre. Alors, petit point de méthode, pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qui se calcule sur un trimestre, voire même un semestre. Hein, il faut regarder ça au moins sur une année, parce que les entreprises ne versent pas toutes leurs dividendes au même moment dans l'année. Donc il faut regarder au moins sur un an, et puis il faut regarder ça aussi sur un échantillon d'entreprises suffisamment large pour pas biaiser le résultat et pour pas donner trop de poids, si vous voulez, à des entreprises qui, en matière de distribution de dividendes, auraient connu un événement un peu exceptionnel. Alors, si on regarde ça justement de manière assez large, et si on regarde le cas de la France, eh bien, en France, les dividendes versés représentent pour l'ensemble des entreprises 50 à 60%, d'accord, de leur profit, avec un pic en 2009. Si on regarde ça au niveau des banques, au niveau même plus largement des sociétés financières, c'est encore plus important. D'accord. Donc les dividendes représentent à peu près 90% des profits, avec un pic qui reste à éclairer à près de 200% autour de 2008. D'accord. Et il me semble que ça traduit trois choses. Donc si j'ai le temps, je veux bien essayer d'éclairer
ces... On va les énumérer au moins,
voilà, ces trois choses.
On les détaillera.
Je pense que première chose, en fait, le fait, si vous voulez, de distribuer autant hein, de dividendes en pourcentage des profits, bah, ça traduit au fond un manque de confiance dans l'avenir, sinon un manque de vision ou un manque d'imagination, parce que au lieu de réinvestir des bénéfices, on les distribue à court terme aux actionnaires. Deuxième point, je pense que ça traduit une pression très forte des actionnaires, la fameuse tyrannie du ROE. Hein, le fameux return on equity, c'est-à-dire le rendement par action.
Qui peut atteindre des pourcentages considérables. Hein,
on parle tout à fait. Et c'est également, si vous voulez, un frein énorme en fait, au financement de l'investissement, parce que ça veut dire quand même moins de
capacité.
Ça veut dire moins de capacité d'autofinancement, parce qu'on met moins de bénéfices en réserve.
Pas la cause et l'effet.
Et puis, ça veut dire aussi moins d'émissions d'actions, parce que émettre des actions. ça coûte cher. Et c'est bien ce qu'on voit d'ailleurs sur le marché des actions. Le marché des actions, c'est avant tout un marché secondaire sur lequel on échange des actions qui sont déjà émises. Et c'est de moins en moins un marché primaire sur lequel des entreprises se financent, viennent s'introduire. Il y a eu plein de retards d'introduction en bourse ces derniers temps, précisément parce que le marché primaire des actions va mal. Et si le marché primaire des actions va mal, c'est en partie lié à ce comportement des actionnaires.
Mais bien sûr, nous dit Olivier, pourquoi ?
Parce que je pense que c'est mélanger la cause et les faits. La tyrannie des actionnaires, elle s'exerce en tout temps et en toutes circonstances. Ils veulent du fric. Voilà, point.
Il y a eu des grands changements au cours des 20 ou 30 dernières années, Olivier.
C'est ça les questions qu'on pose.
Je suis d'accord avec vous. Ma remarque valait sur les 20 ou 30 dernières années. Donc là-dessus, on est d'accord. Ce que montrent ces évolutions, comme les rachats d'actions, c'est une panne d'investissement. C'est la panne d'investissement qui fait que, comme on n'a pas, de moyens d'investir, on se les distribue entre nous.
Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, je vous pose une question extrêmement naïve, on n'a pas intérêt à les mettre de côté en attendant de pouvoir les investir?
Mais mes actionnaires demandent une rémunération.
C'est vraiment une question basique.
Panne d'investissement, le monde n'a besoin de rien.
Mais bien sûr que si. Mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce phénomène qui ne me paraît pas majeur. Et puis, il y a une autre question qui est est-ce que les entreprises ont oublié la crise de 2008 et continuent à faire n'importe quoi? La réponse est clairement oui. Pas que dans ce domaine-là. L'intitulé de ce chapitre de l'émission, c'est la gouvernance. C'est vrai qu'en matière de gouvernance, on a l'impression qu'ils sont repartis comme en 14. Ce qui est, et on sera là aussi peut-être pas d'accord autour de la table, ce qui n'est pas le cas des régulateurs qui, je trouve, ont quand même tiré les enseignements de la crise de 2008. Il y a dans ce domaine-là pas mal de progrès qui ont été faits, même s'il y en a encore à faire. Mais les boîtes, elles recommencent comme en 14.
Voilà, analyse d'Olivier Pastret, qui ne sera pas forcément celle de Benjamin Coriat, mais c'est vrai, c'est ce qu'on veut comprendre, nous, auditeurs, moi, mais les auditeurs, je le pense derrière moi, ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi cet argent, Olivier Pastret nous dit, d'accord, on ne peut pas investir, de toute façon, il n'y a pas, l'économie étant ce qu'elle est, il y a des faiblesses, mais on ne peut pas le mettre, je ne sais pas, cet argent, le garder pour autre chose, alors, on ne peut pas l'investir, donc on se le répartit entre nous, il n'y a pas d'autre solution.
Non, mais il y a plusieurs questions.
Benjamin Coriat.
Il y a plusieurs questions. Premièrement, il faut être tout à fait clair là-dessus. Olivier propose de faire repartir l'histoire à il y a 20 ans. C'est possible, mais si on la fait repartir à un peu plus longtemps que ça, il y a un prélèvement au bénéfice des actionnaires qui s'est effectué dans la période récente par rapport à la période antérieure, qui a plus que doublé et dans certains cas triplé. Donc ça, c'est une première chose massive qui est extrêmement importante. Bien. Deuxièmement, pourquoi ce prélèvement ? Ça n'a pas toujours existé sous cette forme-là. Ça a existé parce que se sont constitués un ensemble de sociétés, les fonds de pension, les hedge funds, etc., qui ont acquis un pouvoir de négociation en entrant dans la gouvernance des entreprises sans précédent avec le passé. Alors la troisième chose qui est peut-être la plus importante, c'est la question de pourquoi ça ne s'investit pas. Parce que vous dites, Dominique, à juste titre, on pourrait le garder. Bien sûr, on peut le garder pour l'investissement futur, mais on pourrait d'ores et déjà investir aujourd'hui. La raison pour laquelle on n'investit pas, c'est tout simplement que les rentabilités strictement financières que permettent les placements sont sans comparaison avec les rentabilités réelles, si j'ose dire, permettent l'économie aujourd'hui. Et donc on est dans une situation tout à fait catastrophique, qui est qu'on a une masse de profits qui est redevenue extrêmement importante et qui tourne sur elle-même. Au lieu d'aller vers l'investissement productif. Et donc c'est vrai que, de ce point de vue, on n'a rien appris de la crise de 2007-2008 et on s'en prépare encore une magnifique.
Eh bien voilà, de bonnes nouvelles. Nicolas Bavret, votre analyse, et je crois que Jezabel Soubeyran voulait également.
Je crois que le point de départ, c'est celui que vient d'indiquer Benjamin Coriat, c'est-à-dire qu'on a de nouveau une tension économique entre l'économique et le financier, et la question clé, c'est celle de l'investissement. Quand on prend les 2000 premières entreprises mondiales, l'investissement a diminué de moins 5% l'an dernier, et c'était déjà le cas avant. Et du côté financier, on a 4 signaux d'alerte. Les bulles sur les marchés d'actions, parce que quand on prend par exemple ce fameux S&P 500, il a augmenté de 83% depuis mars 2011. Donc, les dividendes, vous en avez parlé.
Dont on parlait au début. Ouais.
On a 2000 milliards de dollars qui sont bloqués dans des paradis fiscaux pour ne pas réintégrer la fiscalité américaine. Mmh. Et puis, on a la montée du shadow banking Donc, ça, ce sont les signaux d'alerte. Alors, quelles sont les raisons? Parce que les raisons...
Shadow banking, vous le définissez en deux mots.
C'est le système bancaire clandestin, c'est-à-dire la manière de faire de la banque sans être régulée comme une banque.
Mais tout en restant très lié aux banques. Ça, c'est quand même un point important.
On se fait peur, shadow banking, la banque clandestine, c'est pas la banque clandestine, c'est les activités financières et parabancaires qui sont faites par des non-banques.
Hors régulation bancaire.
Ces non-banques pouvant être propriétés de banques.
Oui, qui par exemple,
le motif pour lequel elles font...
Les SICAV monétaires... c'est-à-dire le produit, c'est le livret A sophistiqué, c'est du shadow banking.
Ça a quand même été une des raisons majeures de ce qui s'est passé en 2007-2008, et donc c'est un facteur d'inquiétude.
Alors, si elles se mettent à agir sur des circuits parallèles au lieu d'agir sur les circuits sur lesquels elles sont déjà établies, c'est bien pour échapper à un certain nombre de choses. Il faut dire les choses à nos auditeurs.
Essayons de regarder.
Vous dites clandestin. Vous maintenez clandestin.
Essayons de regarder les.
C'est pas clandestin, c'est hors réglementation. C'est pas pareil.
Merci.
Essayons de regarder. Regardez les raisons maintenant. Et on va s'apercevoir que ce n'est pas seulement l'avidité des actionnaires. On a quatre raisons qui sont des raisons sérieuses. La première, c'est la sortie de la plus grande crise depuis 29. Or, on sait qu'on ne sort de l'économie de bulle que par la bulle. Je m'explique. Si on veut désendetter les gens brutalement, c'est 29. Donc, de fait... les liquidités considérables, la liquidité mondiale, c'est plus 12% par an depuis 2007. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, eh bien, ça veut dire que la Fed au premier rang, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre
américaine.
Et maintenant la Banque Centrale Européenne déversent des liquidités de manière massive. Et que celle-là, et ces liquidités, c'est une machine à refaire de la bulle, comme on a fait, mais sinon, enfin, ça s'effondre. Je vais jusqu'au bout, ensuite, vous interviendrez.
Juste pour dire que l'idée de Draghi, c'était pas de faire de la liquidité pour la liquidité. Oui, c'était de donner de la liquidité pour permettre la reprise.
Oui,
il est obligé de s'y reprendre à une deuxième fois avec un nouveau dispositif. Donc il ne faut pas dire que émettre de l'argent a nécessairement pour effet de faire que de la liquidité. Non. Ça dépend ce qu'on en fait.
Alors que, par ailleurs... La Banque Centrale Européenne fasse ça avec 5 ans de retard, c'est tout à fait vrai. Qu'elle ne le fasse pas en totalité, c'est tout à fait vrai. Mais il n'empêche qu'on a réémis massivement des liquidités et qu'une partie de ces liquidités, peut-être pas celle de la BCE, mais en tout cas celle de la Fed, ont servi à reconstituer des bulles. Mais c'est un... Vous voyez, le pari, c'est qu'on arrive à c'est l'espèce de tente à oxygène pour le malade dans le coma, en espérant faire repartir l'économie réelle. Le deuxième problème, c'est justement l'économie réelle. On a des incertitudes sur la croissance. L'Europe est quasiment en déflation et par ailleurs, on a des incertitudes sur la productivité, la démographie, les inégalités. Le troisième problème qui est réel, les risques géopolitiques. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, en Asie, en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique, on l'a dit, ça se tend. Et que si aujourd'hui, vous êtes par exemple dans le secteur pétrolier, pour investir en Russie, c'est quand même pas tout à fait évident. Et on a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont des facteurs réels. Et le dernier aspect, c'est que les États...
Pour investir,
c'est que les États qui sont surendettés sont devenus des facteurs d'incertitude radicaux avec leurs changements réglementaires et fiscaux. Et on en a un exemple excellent avec Ecomove et l'écotaxe aujourd'hui. Et donc tout ça, ce sont des facteurs qui expliquent pourquoi les entreprises, oui, sont profitables. Oui, on sort d'un... C'est la sixième année de bull market boursier aux États-Unis, ce qui est un peu étrange, mais que par ailleurs, on a ces facteurs réels qui expliquent les difficultés des entreprises pour investir.
Aux autres. Longue explication de Nicolas Bavray, mais qui va vous donner du grain à moudre, c'est parfait.
Peut-être que le problème à l'origine de ce comportement financier, c'est l'investissement en panne. Mais je pense qu'il faut bien souligner que ce comportement financier-là n'aidera pas à faire repartir l'investissement.
C'est ça qui nous inquiète.
On l'a dit tout à l'heure, plus de dividendes distribués, c'est au final, en fait, moins d'émissions d'actions, c'est moins de bénéfices mis en réserve, donc c'est moins de capitaux propres. D'accord ? Et ça veut dire une moindre solidité financière. Et je voudrais souligner que c'est vrai pour les entreprises, c'est encore plus vrai
pour les banques.
Exactement.
Ce que nous disent les banques,
c'est quand le régulateur leur demande justement d'avoir davantage de fonds propres, elles répondent, mais émettre des actions, ça nous coûte cher. Alors c'est vrai que ça leur coûte cher, ça leur coûte un ROE de 15%. C'est une véritable, c'est une hérésie. D'accord ? Et parallèlement, ce qui est dramatique, politique, c'est qu'en fait, émettre de la dette, ça leur coûte pas cher du tout. Ça leur coûte pas cher du tout parce que cette dette, elle est subventionnée implicitement par les pouvoirs publics qui, en cas de problème, leur viennent en aide. Alors, les choses changent un tout petit peu, mais on en est quand même, si vous voulez, encore un peu là. Donc, résultat des courses, eh bien, plutôt que de renforcer leurs capitaux propres, les banques continuent de s'endetter, elles continuent de grossir, la crise n'a pas changé grand-chose à cela, et donc elles deviennent énormes et elles deviennent de plus en plus fragiles. Donc est-ce qu'on a tiré les leçons de la crise ?
La réponse est non,
clairement. D'accord. On est toujours dans
un système.
On peut revenir sur les progrès en termes de régulation, mais on est quand même, si vous voulez, toujours dans un système financier à courte vue, dans un système financier prédateur, dévorant, énormissime. Et puis, ça m'amène aussi à souligner un autre point, c'est que, au fond, là, on est en train de parler du coût du capital, et le coût du capital, c'est un problème autrement plus important que le coût du travail. Et pourtant, on nous rabat les oreilles.
Bravo, Isabelle, voilà avec le
coût du travail.
Voilà. Qui me paraît un thème de grande importance.
Voilà, que du miel aux oreilles de Benjamin.
Ah oui. Je voulais revenir sur la longue et passionnante intervention de Nicolas, je plaisante. pour moi, c'est la théorie du verre à moitié plein. Vous avez raison, c'est vrai que créer de la liquidité, ça, c'est un risque de bulle spéculative. C'est vrai que la croissance en Europe n'est pas extraordinairement forte. C'est vrai qu'il y a géopolitiquement des tensions. Mais reprenez le point de vue de manière différente, ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, la liquidité, ça dépend où on la met. La croissance, il y en a dans plein de régions, notamment l'Afrique. Je vais dire un peu le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a dans les pays émergents un potentiel de... Donc, arrêtons de dire que la crise est de plus en plus grave. Elle n'est pas de plus en plus grave, elle est grave et on n'en sort pas. Alors après, le comportement des entreprises, moi je reviens obsessionnellement sur mon truc, c'est que le problème, c'est que les entreprises n'investissent pas. Pourquoi est-ce qu'elles n'investissent pas? Je ne crois pas que c'est parce qu'on leur retire des sous. C'est parce qu'il n'y a pas de marge. Ben, elles ne croient pas dans le développement des marchés.
On parle des entreprises en Europe, là, parce qu'on est parti des États-Unis, mais il y a quand même de grandes différences entre États-Unis et Europe. Aux États-Unis, elles investissent,
Il est de bon goût de dire que les États-Unis sont en train de connaître une croissance très rapide, ce qui n'est objectivement pas la réalité.
Donc elles n'investissent pas beaucoup là-bas non plus.
Non,
l'investissement aux États-Unis aujourd'hui.
C'est juste une différence entre les deux zones.
Prenons les chiffres quand même. L'investissement aux États-Unis, il est largement supérieur à ce qu'il était en 2007. En Europe, l'investissement est 200 milliards en dessous du niveau de 2007.
Voilà, je voulais cette précision. Poursuivez, pardon, Olivier Pastret.
Non, après, moi, je trouve que la régulation a beaucoup progressé, pas assez, je suis tout à fait d'accord.
Non, mais c'est bien de le dire.
Mais a beaucoup progressé depuis la crise. C'est les seuls qui ont compris. Regardez Draghi, le fait que la BCE est une politique aussi, entre guillemets, agressive, c'est une révolution épistémologique pour la Banque Centrale Européenne. Je veux dire,
Mario Draghi, à nouveau président de la banque.
Je suis d'accord avec Jabel, malheureusement, les entreprises, elles sont reparties comme en 14 et elles relancent les bêtises, pas simplement en matière de versement de dividendes, en matière d'augmentation de salaire, l'histoire des stock options, des bonus et des trucs.
J'ai une question à vous poser, si vous permettez. On dit, je reviens aux entreprises françaises ici, les patrons distribuent-ils trop de dividendes? Alors, on cite l'exemple de GDF Suez, c'est un article sur lequel je suis tombée, qui date du printemps d'ailleurs, mais ça n'a pas dû bouger beaucoup, où le groupe donc GDF Suez va offrir, sur un plateau, nous dit l'article, 3 milliards 600 millions d'euros à ses actionnaires. Mais il ajoute, c'est au fond, cela arrange aussi l'État, puisque c'est l'État qui peut trouver intérêt à ce qu'on reverse, puisque l'État est lui-même détenteur de près de 40% du capital de cette entreprise. Donc est-ce qu'il y aurait une incitation de l'État français envers, pas seulement GDF Suez, mais Orange également, Renault, EDF, question.
Ce que vous venez de dire, ça s'appelle un euphémisme.
Bien, merci.
Non, mais
parce que ça rentre peut-être dans la discussion, qui a intérêt à...
C'est vrai qu'il y a des cas dans lesquels...
À rembourser l'actionnaire, c'est l'État aussi.
Oui, il y a des cas dans lesquels l'État, continuant d'être un actionnaire significatif, ne pousse absolument pas à ce qu'il y ait une autre politique que celle du versement des dividendes.
C'est
en quoi l'État a bien tort, non seulement de s'en tenir
L'État a besoin d'argent.
Oui, mais il pourrait, en tant qu'État, si je peux dire, utiliser son stock d'actions de manière bien plus intelligente 50 en ayant une politique active de restructuration industrielle, de constitution de filières nouvelles, de création d'opportunités d'investissement, etc. Moi, je trouve que la gestion faite par l'Agence des participations d'État du stock d'actions est tout à fait dérisoire par rapport à ce que l'État devrait faire.
Benjamin est pour la privatisation.
Non, Benjamin n'est pas du tout pour la privatisation. Benjamin, je vais être très clair, est pour la constitution d'un fonds souverain à partir des actifs de l'APE et de la CDC. Et si on avait
attention,
un fonds souverain...
Attention, l'APE et la CDC, laquelle est plus
conciliation ? L'Agence des participations d'État, donc justement ce stock d'actions dont dispose déjà l'État, et la CDC, c'est la Caisse des dépôts, qui recueille en particulier l'épargne des particuliers.
Mais normalement, ça a déjà été fait avec le FSI. C'était
oui, mais ça, sauf que ça sert absolument à rien.
Avec le fonds structurel d'investissement, merci de traduire.
Et fonds stratégique.
Bon. Stratégique, oh, pardon, en plus je dis une bêtise.
Le point sur lequel je voudrais insister, donc je suis pour une politique tout à fait active d'utilisation de ces capacités, alors que pour le moment, vraiment, on fait quasiment rien avec tout ça. Le point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est la liaison entre le désinvestissement, hein, puisqu'on est à moins 5 l'année dernière, à moins 4,3 cette année, et le gonflement des profits. Parce qu'il faut quand même expliquer cette relation entre les deux choses. Alors cette relation entre les deux choses, elle passe par le fait que les niveaux de return on equity, c'est-à-dire autour de 15% exigés par les actionnaires, sont tels que même les entreprises grosses multi-activités, sont amenées à se recentrer sur des nombres d'activités extrêmement restreints et bazar le reste. J'ai moi-même conduit une étude hein, qui montre que sur 25 entreprises du CAC 40, alors qu'il y avait autrefois 5 ou 6 métiers, ou 8 ou 10, etc., maintenant il n'y en a plus que 1, 2 ou 3.
Non mais attends, c'est une tendance historique.
Non, mais attends. Non, c'est pas une tendance. En Allemagne, on n'a pas détruit les conglomérats. Il n'y a qu'en France qu'on les a détruits. Et comme par hasard, qui rachète Alstom, Olivier, qui rachète Alstom, qui a été précisément filialisé, un conglomérat, General Electric, voilà. Donc je suis en train de dire quelque chose que je considère, tu peux ne pas être d'accord, très important, à savoir que non seulement on n'investit pas, mais on désinvestit en se filiarisant sur des filières pointues.
Vous nous l'avez mis en colère, maintenant expliquez-nous.
Je ne fais dire qu'une chose, c'est que la tendance est une tendance historique qui est impulsée par les actionnaires qui veulent des entreprises monolithiques.
C'est très inégal suivant les pays.
Cher Benjamin, je suis désolé, mais je n'ai pas dit que ce n'est pas différent selon les pays, mais dans la plupart des pays, États-Unis compris, la tendance est au monoproduit. Mais
ce qui me semble important, c'est que ce n'est pas un problème français.
Les dernières interventions, Nicolas Barret.
Quand on veut regarder tout ce qui a été dit, sur quoi peut-on travailler ? Le partage de la valeur ajoutée, c'est vrai. La sortie prudente du quantitative easing, en tout cas la manière d'utiliser de manière efficace les liquidités, c'est vrai, même si c'est plutôt un problème américain qu'un problème français. La régulation financière, c'est vrai. Le fait de travailler sur le coût du travail, le capital, l'innovation pour remettre de la croissance, c'est vrai. Le fait que les États se calment pour créer un environnement stable sur le plan réglementaire et fiscal, c'est vrai aussi. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à faire ce passage entre le réamorçage de la bulle qui était nécessaire pour éviter une grande déflation et puis le fait de repartir sur l'économie réelle dont, on est bien d'accord, l'investissement est la clé.
Un mot, Isabelle.
Oui, juste une réaction. La régulation financière a progressé, c'est vrai, mais vraiment pas assez.
Je crois qu'il est
quand même important de dire, si vous voulez, qu'il y a un mouvement de résistance énorme hein, de la part des lobbies bancaires qui freinent les progrès en la matière.
On en reste là sur ce sujet. Ah, on est d'accord. On en reste là sur ce thème.
C'est le verre à moitié plein.
Difficile de ne pas être d'accord quand on regarde ce qu'on a fait de la loi bancaire française.
Ben oui. J'avais envie aussi de vous faire parler des fusions-acquisitions. Ce sera pour une autre fois. Il me semblait que ça rentrait peut-être aussi dans le débat. On le réservera à d'autres émissions. Et à 11h52, j'ai le temps de vous demander quelques actualités invisibles. On commence avec vous. Isabelle Coupé-Soubéron, avez-vous eu le temps de nous en préparer une ou deux?
Écoutez, moi j'ai... La paire de lunettes un peu financière. Hein. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est le dernier rapport du Fonds monétaire international qui souligne la persistance des risques financiers. Alors, il y a des choses intéressantes, évidemment, dans le rapport. Il souligne la persistance des risques financiers, mais en même temps, il nous dit que ce serait pas mal de relancer la titrisation. Par ailleurs, il nous dit, attention, le shadow banking...
Sur les banques encore.
Voilà, le shadow banking est en train de se développer considérablement et... le FMI attribue cet essor au renforcement de la réglementation. Alors, bon, là, je me dis que finalement, ça tourne pas rond et que le discours des lobbies bancaires fonctionne jusqu'au FMI. Le shadow banking, c'est une des causes de la crise financière. Ouais. Donc, c'est pas la conséquence du renforcement des réglementations.
C'est Olivier pas une fatalité, en tout cas. C'est pas un débat, juste une actualité invisible. Bon. Pardon, Olivier.
Je dis quand même non, c'est pas la titrisation qui est en cause, c'est la forme qu'elle prend. Bon, voilà. La première, c'est une pure information. Le printemps de l'économie de Paris, 3e édition du 13 au 17 avril 2015. C'est une manifestation, je trouve, qui est très, très, très bien. Et donc, vous pouvez aller sur leur site, Printemps de l'économie.
Je soutiens parce qu'ils entraînent des classes secondaires, des terminales, et que je trouve que c'est très, très bien. Beaucoup de choses, ils les emmènent partout dans des débats. Voilà, donc on est pour et on aime bien leur leader qui les.
Voilà,
qui
c'est pas
dépense,
que c'était pas caché, mais
qui
c'était
se énormément. Bien
anticipé. La cachée où.
Pierre-Pascal Boulanger, pour ne pas le nommer.
Le Trésor britannique vient de démettre sa première tranche d'obligations conforme à la charia, on appelle ça des soukouks, c'est ce qu'on appelle la finance islamique. C'est d'abord que ce soit le Trésor britannique qui ait fait ça pour la première fois en Europe, c'est assez marrant.
C'est un timing parfait.
Hein. Non, mais attendez, pour une fois que les discours sur l'islam sont positifs, il faut le souligner. Dans ce domaine-là, il y a 50 milliards qui ont été levés à l'échelle mondiale. Il y a des capitaux. Alors, la finance islamique, c'est très simple. Ce n'est pas du tout l'interdiction de l'intérêt, comme on le dit généralement. C'est simplement le principe, qui est un principe sain pour la finance, qui est de faire partager le risque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rémunération garantie. On est au moins, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est a priori plutôt vertueux. Et je trouve que cette initiative du Trésor britannique, qui ne fait pas que des choses bien, méritait d'être annoncée. Et la France ferait bien de rattraper son retard dans ce domaine.
Merci pour cette information qui, effectivement, nous avait échappé, je pense, à la plupart d'entre nous. Merci Olivier Pastret. Nicolas Bavret.
La Chine est devenue la première économie du monde si on raisonne en parité de pouvoir d'achat. Alors, il faut toujours faire attention. En taux de change, le PIB chinois, c'est 60% du PIB américain. Mais en parité de pouvoir d'achat, si on prend la base 2011, la Chine est passée devant. Même si, évidemment, le PIB par habitant en Chine n'est pas celui des États-Unis, c'est une évolution qui est intéressante.
Merci Nicolas Bavret. Enfin, Benjamin Coriat.
Eh bien, moi, c'est une actualité qui est en phase directe avec l'émission d'aujourd'hui. Il y a une quinzaine de jours, on avait parlé des fonds vautours à propos de l'Argentine. Je voulais juste indiquer qu'ils sont très présents dans l'industrie. Et qui sont présents en particulier chez les sous-traitants d'Airbus. Alors aujourd'hui, il y a un sous-traitant d'Airbus qui n'est pas un sous-traitant secondaire, parce qu'il fabrique les fuselages, qui s'appellent Latécoère, dont la dette a été rachetée sur le marché secondaire par des fonds vautours, qui sont en train d'essayer de s'introduire par ce biais dans le contrôle de cette entreprise. Voilà, c'est simplement une manière de dire que, par rapport à la question posée aujourd'hui, on n'en est vraiment pas sorti. On a même des fonds vautours qui sont en train de rôder autour d'un des sous-traitants principaux d'Airbus.
Il y a d'autres exemples à votre connaissance de ce que.
Oui, bien sûr. J'en ai toute une série. Je peux vous les énoncer si vous voulez. Ça n'est que la pointe extrême récente de l'activité des fonds vautours dans les grandes industries françaises.
Olivier Pastret.
C'est comme shadow banking, c'est le terme qu'il faut utiliser avec un peu de précaution. Moi,
c'est les échos qui emploient l'expression.
Ce n'est pas vraiment
des grands gauchistes. Voilà,
question de gauchiste ou pas gauchiste, c'est pas la Bible. Pourquoi je dis ça ? Parce que le principe de racheter de la dette à vil prix, parce que la boîte ne va pas bien, c'est un principe qui est, alors là, pour le coup, depuis une quarantaine d'années, ça existe.
Sauf que là, il s'agit de fonds vautours spécialisés dans cette activité.
Ça existe depuis longtemps. Je ne dis pas que les fonds vautours, c'est bien. Dans une émission là-dessus,
on en a
parlé
longtemps.
Tout le mal que j'en pensais. Je dis simplement qu'en matière d'entreprise, c'est pas tout à fait le même, ça ne pose pas tout à fait les mêmes problèmes qu'en matière d'État, comme dans le cas de l'Argentine.
Voilà, je peux dire simplement que Airbus est très inquiet.
Mais il a de quoi.
Nicolas, vous voulez dire autre chose aussi ? Vous avez 10 secondes ?
Non, c'était pas là-dessus, c'était une autre petite, comme on avait encore un peu de temps.
Allez, d'accord,
une autre information sur l'Allemagne, dont on sait que en ce moment, elle a un petit trou d'air. Juste rappeler que les exportations allemandes vers la Russie, c'est 1% de son PIB. Et donc, on voit quand même l'impact entre, entre les deux. Voilà.
C'est le sujet que nous avions traité la semaine dernière, je crois d'ailleurs. On peut retrouver tout ça d'ailleurs sur notre site, puisqu'on le sait, nos émissions, comme toutes celles de France Culture, sont téléchargeables assez longtemps pour que vous puissiez retourner sur les sujets, consulter la liste des émissions que nous avons traitées depuis cette rentrée. Je voudrais aussi signaler deux Isabelle Coupé-Souberan que nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Parlons banque, ça vient de sortir à la Document de façon française. Tout comprendre sur les banques, hein, c'est extrêmement simple.
Un petit ouvrage grand public.
Pédagogique, grand public, c'est volontaire.
On essaie d'y voir clair.
Et également, alors vous allez me dire le nom de votre co-auteur, autrice, auteureux, L'économie pour toutes.
En collaboration avec Marianne Rubinstein.
Voilà, là aussi, vous verrez que ce n'est pas si compliqué l'économie, si on veut bien. Les lettres du Bénin, Nicolas Bavret, je les rappelle également. Et puis tous les titres de nos habitués en consultant notre site. Comme d'habitude, on vous salue, on vous souhaite une très très bonne journée. On vous retrouve samedi prochain. Le temps de remercier Ghislaine David qui réalise notre émission comme chaque semaine, en compagnie aujourd'hui de Joël Boulogne. Et un petit salut à Laurence Genepin. Tout à fait indispensable pour la préparation de la documentation. À samedi prochain.